RMC.
Inbound to start right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC, à télécharger tous les mardis sur rmc.fr. Parfois c'est le mercredi quand il y a des finales NBA, mais là aujourd'hui, mercredi. Cette semaine, ça tombait parfaitement. Frédéric Weiss,
bonjour.
Stephen Brun,
oui, salut Pierre.
Et Félix Gabory,
salut tout le monde.
Qui s'est réveillé cette nuit? Personne, je vois.
Si,
vos yeux, vous avez bien dormi.
Non seulement j'ai regardé, en plus je l'ai regardé quand j'étais dans la douche et je l'ai regardé dans la voiture pour aller jusqu'au train. Donc oui, je l'ai vu.
Ah, on était là, t'as pas vu tous les messages sur le groupe WhatsApp? On n'a pas arrêté de mettre des messages sur le groupe WhatsApp.
Ouais, mais vous avez l'air d'être bien reposé. Bah, vous avez dormi après.
Ah d'accord. Dormi une heure et demie après. On est cramé.
Des finales relancées, vraiment, je vous pose la question. Ce sera le premier débat. Ensuite, on va faire le point sur les finales de Victor Wembanyama. Est-ce que c'est satisfaisant selon vous? Est-ce qu'il doit faire encore plus? Et puis la partie historique, vous allez raconter les plus grandes remontées en finale, puisque les Spurs étaient menés 2-0 après deux matchs à domicile. Le quiz, c'est toujours des allers-retours entre San Antonio et New York. C'est parti pour Basket Time spécial finale NBA.
Alley-oop to Wembanyama, perfect pass from Castle. And a lead is up to three. Good ball movement. Towns fakes a three. Finds Brunson. Extra pass. Shamet off the bounce inside. Layup blocked by Wemby. Now the dribble. Shot clock winding down. Castle has to put it up. Bang! Stephon Castle from three-point range. We're going to lob it. Nope. Ananobi. Corner three. Fires away. Shot's no good. And the Spurs win. What a response from San Antonio. They do it again.
Alors, les Spurs ont sauvé leurs fesses en allant gagner à New York. Ça ressemblait un peu aux deux premiers matchs avec les Spurs qui prennent de l'avance et puis qui se font rejoindre. Sauf que le Money Time, cette fois-ci, est tourné à l'avantage de San Antonio. Donc, New York conserve l'avantage du terrain. Il y aura un match 4 à New York. Est-ce que pour vous, les finales sont vraiment relancées? Je vois que tu es prêt à me sauter à la gorge, Félix, je t'écoute.
Non, jamais, Pierrot, toujours avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance.
Après, t'es pas en danger, hein, c'est Félix qui te saute à la gorge.
Bon, ça va, c'est Fred. Il y a Fred entre nous deux qui va faire un écran de retard. Et
non, vas-y, je te le laisse.
Forcément relancé, parce qu'à 3-0, je pense que je vois pas comment les Spurs auraient pu exister dans cette série. Au moins, grâce à cette victoire des Spurs, on a une vraie série dans ces finales NBA. Tu l'as dit, les Spurs, ils ont réussi à faire ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire sur les deux premiers matchs, c'est-à-dire à garder leur avance, parce qu'on avait quasiment le même scénario de les Spurs qui commencent très bien, qui prennent 10-12 points d'avance très rapidement, et après les Knicks qui font un run pour revenir. Hier soir, jusqu'au bout, enfin cette nuit jusqu'au bout, on a eu très peur, hein, même dans le Money Time, parce qu'en plus on avait les mauvais souvenirs de ce qui s'était passé dans le match 2 avec le Money
Time.
Mais
des possessions mieux gérées cette fois-ci.
Ouais, bien, mais par contre, New York, jusqu'au bout, s'est montré très 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 menaçant. T'as eu des 3 points, même jusqu'à 10-12 secondes de la fin, à Anunoby qui m'a 3 points dans le corner qui était très bien défendu. Jusqu'au bout, on a un peu flippé parce que, évidemment, on a envie de voir Victor Wembanyama briller dans cette série, mais en plus, on avait envie de voir le suspense qui était relancé. Et comme j'ai dit au tout début, à 3-0, même si les Spurs ils te prouvent qu'ils font preuve de résilience, je vois pas comment cette série aurait pu exister. Alors là, au moins, on a des vraies finales NBA et on a un match 4 où on peut attendre des Spurs qui peuvent vraiment jouer leur va-tout sur ce match 4. Et c'est très étonnant de voir d'ailleurs une série, c'est improbable, une série où personne ne gagne à domicile.
Pour l'instant.
Pourtant, t'as des ambiances de dingue, mais personne n'arrive à prendre un match à domicile, donc ça rajoute un peu de sel à cette série de finale.
Est-ce que pour autant vous diriez que la série est relancée, Steve et Fred?
Moi, je pense qu'elle est relancée. Défaite fait très mal aux Knicks. Je pense qu'elle fait très mal aux Knicks qui se voyaient à domicile avec cette ferveur, avec tout ce qu'il y a autour du Madison Square Garden.
Ils pensaient avoir fait le plus dur peut-être.
Oui. Et puis ils pensaient qu'avec en jouant à domicile, ils allaient avoir cette euphorie-là portée par le public. Alors pas portée par Donald Trump qui a fait une micro-sieste pendant le match. C'est trop long pour lui, le bon Donald. Il a trop de choses à faire. Donc il est fatigué, mais il pensait pouvoir surfer sur l'ambiance du Garden. Et ils ont été. Et encore une fois, ils démarrent mal le match, les Knicks. Et ça fait trois matchs où, sur le premier quart-temps, ils démarrent mal. Et ensuite, alors c'est une équipe qui lâche pas, c'est une équipe qui est capable de mettre des gros tirs, on l'a vu. Même si Jalen Brunson.
Capable de prendre feu aussi.
Ouais, même si Jalen Brunson, on y reviendra, met toujours des gros tirs dans des money time. C'est un joueur de money time, hein, clairement, Jalen Brunson, même si sur l'intégralité du match, il n'a pas non plus été.
Il arrose.
Fantastique, ouais, il arrose. Et puis ses pourcentages sont très mauvais.
Mais c'est vrai que même s'il le perd, il est encore bon dans le money time.
Hein. Ah oui. Ouais,
même
oui,
si
oui.
Le
oui, oui, il est
ça,
bon.
C'est quand même un vrai atout.
Ojean Onuibi, bon, maintenant il y a 2-1. je crois qu'il y a un petit déblocage psychologique aussi pour les Spurs, parce que mener 2-0, tu perds 2 money time, parce que même sur le match 1, j'estime qu'il y a un petit money time aussi sur le match 1, et qu'il y avait un traumatisme du match 2. Cette équipe, elle est quand même fantastique, cette équipe des Spurs. On a beaucoup parlé d'inexpérience, de jeunes garçons. T'es mené 2-0, tu vas à New York, dans la Mecque du basket, où t'as l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête, et tu fais ce match-là à l'extérieur. Je trouve ça fort, ce qu'a fait Stephen Castle sur la première mi-temps, parce que c'est lui qui met les Spurs un peu sur ses épaules.
Et qui était pas bon en plus, ce Castle, hein, sur les deux premiers matchs.
Qui était pas bon, mais cette équipe-là, moi, elle continue de me surprendre, en fait. Elle continue de me surprendre, et je pense qu'il y a une petite bascule psychologique qui a été faite, et je crois que cette série, elle va durer. Alors, je ne sais pas si Fred est d'accord avec moi, mais moi je la vois durer, cette série. Déjà, ce qu'il y a une certitude, c'est qu'il y aura un match en Texas.
C'est déjà une super chose. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec vous deux. C'est vrai que ce match 3 était capital. Le match 3 était extrêmement important, mais il faut se rappeler quand même de la physionomie des deux premiers matchs. Sur le premier match, finalement, tu joues mal pendant 2 minutes 30 et t'en prends 11, et finalement, tu perds ce match. Et le match 2, bah, t'as la balle en main pour gagner, tu fais une connerie. Donc effectivement, moi, je crois au déblocage, je crois au fait que là, ils ont vaincu le signe indien en se disant, voilà, on est capable aussi sur des fins de match de faire mieux que les autres. Je pense que New York pensait finir tranquillement à la maison à 4-0, fêté avec le public, etc. Ça va pas se passer comme ça. Donc ils vont retrouver un petit peu de pression. Les Spurs sont plus en confiance, les Spurs ont trouvé des solutions, les Spurs se sont rendu compte que Karl Anthony Towns parfois pouvait passer à côté, que Mikal Bridges, quand il jouait le fantôme, c'était beaucoup plus compliqué aussi, et que Chamet, qui était sur un nuage, quand il fait 1-7, tu peux jouer au basket.
C'est
contre,
ça aussi
contre...
qui change beaucoup de choses.
Donc tu te dis, est-ce que psychologiquement, oui, ils n'ont pas été, je suis d'accord avec toi, hein, Stéphane, mais est-ce qu'ils n'ont pas été atteints par ce match, les Knicks, finalement? Parce qu'ils pensaient tellement que ça serait une balade de santé. En même temps, tout le monde les annonçait comme gagnant 4-0. Ils ont toujours l'avantage du terrain.
Il y a eu 3 matchs serrés, mais pas non plus catastrophique pour eux.
Mais c'est pas catastrophique pour eux, mais c'est pas catastrophique pour les Spurs non plus. Il y a eu trois matchs serrés, donc pourquoi le quatrième ne serait pas serré? Et quand le match est serré, une pièce en l'air, on ne sait pas qui est capable de gagner. Donc effectivement, il faudrait prendre celui-là, mais même s'il ne prenait pas celui-là, il retournerait en Texas, il serait à 3-2, parce que je pense qu'il prendrait celui à la maison. Et après, quand tu as la pression, quand c'est plus difficile, pourquoi pas? Donc pour moi, c'est relancé. Je ne suis pas super sûr que les Spurs soient capables de le faire, moi, par contre. Mais dans l'absolu, c'est vraiment relancé. Il va falloir vraiment se donner un fond pour les Knicks. Ce ne sera pas aussi facile.
Mais tu as raison de dire qu'il y a un facteur qui est important pour San Antonio, parce qu'ils font des paris. Ils mettent Victor sur Josh Hart, qui est le plus mauvais shooter. Donc ça permet à Victor de contrôler, même si Josh Hart a mis dedans.
Il t'a sanctionné un peu. Hein.
Il t'a sanctionné. Mais quand Landry Shamet fait 1-7 à 3 points et quand Mikal Bridges ne met pas un tir, ça facilite la tâche défensive des Spurs. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, tu fais des choix défensifs, tu acceptes parfois d'être battu par des garçons comme Bridges et par Landry Shamet, et ils ne mettent pas dedans, et ça facilite la tâche de San Antonio défensivement. Karl Anthony Towns s'est fait bousculer. Notre ami Keldon Johnson, c'était Hulk Hogan, et il est venu faire un match de catch. Hein, oui. Johnson, il n'est pas venu faire un match de basket. Petit bouboule, il a massé les côtes de Karl Anthony Towns, et puis j'ai trouvé les Spurs un petit peu méchants, moi. À l'image de cette poussette de Victor Wembanyama qui aurait pu être sanctionnée si elle était revue à la vidéo sur Jalen Brunson, où il lui met la main sur la tête et il l'écrase. Et j'ai bien aimé la réaction de Victor, parce que Brunson est un peu chaud. Le petit sourire narquois de
Victor.
Il s'en sort bien, parce que les arbitres ne vont pas la voir à la vidéo, parce que sinon il peut être puni. Mais j'ai trouvé la mentalité des Spurs dans la dureté, dans la méchanceté, dans le refus de se faire taper dessus.
C'est plus les agneaux qui se faisaient agresser, c'est eux qui agressaient pour une fois.
Exactement. Et j'ai bien aimé le début de match quand je vois Victor mettre 2 tomards d'entrée de jeu.
Bien sûr.
Ça me fait kiffer. Je me dis, la soirée va être sympa pour Victor Wembanyama quand d'entrée de jeu il met 2 paniers dans la raquette, il met 2 énormes dunks. C'est des choses qu'on n'avait pas vues sur le match 1 et sur le match 2. Et ça lance tout de suite les Spurs dans le bain. Et puis après, j'ai trouvé New York offensivement. J'ai retrouvé le New York de la saison régulière où c'est Brunson qui dribble 250 fois.
Mais quand Karl Anthony Towns n'est pas bon, quand il n'arrive pas à faire jouer les autres, quand on avait parlé de lui qui était devenu la pierre angulaire de ce système d'attaque, quand il n'est pas bon, tu retombes dans la Brunson dépendance. Donc c'est statique, c'est plus, entre guillemets, c'est plus facile à défendre.
Il n'y a plus de mouvement.
Il y a moins de mouvement et tout le monde sait comment ça va se passer.
Mais c'est l'ajustement des Spurs qui a été bon sur Towns. Parce que sur les deux premiers matchs, Towns, il leur fait quand même.
Il leur fait beaucoup de choses.
Il leur drive la musique.
Et surtout, les Spurs, depuis le début de la série, ils ne veulent pas que Towns prenne des tirs à 3 points. Il a 3 tirs à 3 points pris en moyenne sur les finales. C'est très peu pour Karl-Anthony Towns. Ils sont systématiquement avec lui au-delà des 3 points. Ils le forcent parfois à driver. Alors il l'a très bien fait sur les deux premiers matchs. Mais ils ne veulent pas que Karl-Anthony Towns sanctionne à 3 points. Et ça bouleverse un peu l'attaque des Knicks. Et quand Jalen Brunson dribble 250 fois, c'est insupportable. C'est tout ce qu'on déteste chez New York.
Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, déjà, la réaction de Victor à la fin du match, bon, il n'avait pas envie de parler. Il a juste dit on a moins fait d'erreur. Il voulait que ça se termine vite.
C'est barré d'ailleurs. Bizarre, bizarre l'ambiance d'ITV. Oui. Il se barre. Une fois qu'il dit mec, il est minuit. Ah ouais, il est minuit. Il se barre. Il vient me revoir.
Non, mais il a l'air agacé par ces finales. Mais peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, ça m'a sauté aux yeux qu'il a pris moins de shoots pourris à 3 points et que même parfois il s'est ravisé et qu'ils ont plus pris leur temps.
Mais en général, ils ont plus attaqué la peinture. Hein. Cassol et lui ont été plus percutants, ils ont été plus dans l'agression du panier. Mais tu sais pourquoi ?
Le match des Spurs, en tout cas le match d'attaque, le match 2 m'a insupporté parce qu'on n'a pas envie de voir Victor à cet endroit-là du terrain. On a envie de le voir plus près du panier.
Tu connais l'explication ? Tu sais, quand on est grand comme ça, quand on est physiquement lourd, enfin lourd, même s'il n'est pas lourd par rapport à sa taille, mais il est quand même plus lourd, il a des grands segments, etc., il était fatigué. Là, il a eu 72 heures de repos. Donc forcément, ça s'est vu dans son agressivité vers le cercle, sa capacité à se rapprocher. Ah bah oui.
Oui,
ah bah ça.
Puis tu vas au parc.
Tu parles à un mec qui fait 2m18.
Tu vas au parc à New York, tu fais un petit dessin dans un parc, voilà, assis sur un banc.
En fait, ta tête elle part un petit peu, t'es tranquille, tu te reposes. Et il faut se rappeler quand même que c'est des garçons qui sont très très jeunes. Donc 72 heures pour eux, c'est pas la même chose que pour un mec qui a 30, 32, 33 ans. C'est des mecs qui récupère extrêmement vite, donc 72 heures, ça leur a fait du bien. Il a eu cette capacité à se rapprocher du cercle, et dès qu'il se rapproche du cercle, Stephen l'a dit, voilà, bah, ça change tout en fait.
Et puis ils se sont rapprochés du cercle, ils ont provoqué des fautes, et la grande qualité de Victor, quand tu fais 2-24, c'est que sur la ligne des lancers francs, il est très fort, il a plus de 80% de réussite, et ça c'est énorme pour un big man.
D'ailleurs, ils en ont lâché beaucoup au match 2 des lancers.
Mais même dans ce match-là, ils en lâchent pas mal, parce que Victor, lui, il est très propre, mais sinon, t'en as quand même pas mal lâché en route, et à des moments où ils ont du mal à faire le trou.
25-32, après, ils vont beaucoup sur la ligne, 78%, c'est correct.
Oui, mais dans le match, il y avait genre un 8 sur 15, un 8 sur 14, tu vois, ils se sont bien rattrapés après, notamment Victor, qui en a mis beaucoup, et Cassel, d'ailleurs, qui fait un 2 sur 2 chirurgical dans le
grosse paire de baloches. Hein. Le gamin, il a 21 ans, il est rookie, il est au Garden, finale NBA, deux lancers francs. Il fait 2 sur 2. Ce garçon-là, met patte.
À 8 minutes de la fin, il met aussi l'énorme 3 points. Alors,
après, voilà.
Tout ça avec un gros travail sur Brunson.
Oh non, franchement.
Victor, il envoie au casse-pipe.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il envoie au casse-pipe de ouf, là.
C'est pour ça que le shoot est incroyable.
Vas-y, débrouille-toi.
Mais ça, c'est important parce qu'on peut raconter ce qu'on veut. Si ce shoot n'est pas dedans, probablement que ça tourne vinaigre. C'est quand même important.
C'est le basketball, ça, Pierrot.
C'est le basket, je suis d'accord.
Mais le type d'Anunobi, quand il se retourne,
de là à dire que les Spurs ont tout compris, se sont ajustés, qu'ils ont fait un meilleur match. Bon,
ça peut être vrai aussi.
Mais bon, c'est vrai que quand il prend ce shoot-là, on n'est pas très confiant.
On n'est pas très confiant.
Mais tu mets le doigt sur un truc qui est hyper important sur ce début des finales, sur les trois premiers matchs, notamment sur les deux premiers games. L'attaque des Spurs, elle est un peu moche. Hein. Elle est très chum, notamment l'attaque placée sur les deux premiers matchs. C'était tellement brouillon. C'était chum. Ça veut dire moche.
On
le dit toujours.
En 99, pour le coup.
Non, c'est pas beau du tout. Et tu sens qu'en fait, les Spurs sur attaque placée sur demi-terrain, et ça a été le cas pendant toutes les playoffs, où ils ont vraiment du mal, et c'est désordonné, c'est brouillon. Ils ont besoin en fait de faire des stops défensifs.
Mais ils ont besoin de courir. Quand t'as Dylan Harper, quand il y a Aaron Fox, qui sont des mecs qui aiment bien la transition, qui aiment bien courir, ils ont besoin de ça. Et quand ils sont sur demi-terrain, déjà tu donnes la balle à Victor sur beaucoup de situations sur les matchs.
Expliquez-moi ça, parce que ça je comprends pas. Ils ont D'Aaron Fox, et quand effectivement ils sont en attaque placée, c'est Victor qui est en tête de raquette avec le ballon. Moi je.
Alors que le pick and roll Fox Wemby, ils l'ont fait quelques fois au match 3, ça marche.
Pourquoi D'Aaron Fox ne mène pas dans ces situations-là?
Il y a beaucoup de questions à se poser avec D'Aaron Fox.
Tu lui donnes souvent le ballon à Victor, c'est normal, c'est ton joueur. C'est ton
franchise player. En tête de raquette,
peut-être un petit peu moins, mais en même temps, D'Aaron Fox, il faut se rappeler. Alors oui, il met un shoot monstrueux à la fin, sauf que quelques actions avant, je ne sais pas ce qu'il fait, il marche, je ne sais pas, il fait un.
Non, il est à l'envers complet.
Il est complètement à l'envers, donc je ne sais pas, je ne sais pas s'il me rassure vraiment.
Pour Victor, c'est vrai que souvent on est agacé de le voir recevoir le ballon arrêté loin du cercle. Il faut aussi se rendre compte que plusieurs fois il essaye quand même d'aller dans la raquette. Il prend des bumps de Karl Anthony Towns, des mecs qui le repoussent systématiquement, et donc il pète un peu au contact et il préfère aller se réfugier dans une zone où il peut avoir le ballon. Mais le problème c'est de Victor, c'est que ballon en main où il essaye de battre Karl Anthony Towns sur des dribbles, il y a les mecs, les Josh Hart, les Bridges qui sont là dans les intervalles pour lui taper les ballons. C'est pas des situations, mais des fois il essaye d'aller dans la raquette, sauf que New York l'empêche, conteste tous les déplacements.
Il faut s'imaginer comment c'est épuisant physiquement d'avoir quelqu'un quelqu'un qui te tape à chaque fois que tu bouges, on te tape, on te donne un coup, on te repousse, pour un mec de ce gabarit, de ce volume physique, bah c'est extrêmement épuisant. Donc ils ont tout à fait compris. En fait, ils t'épuisent tout le temps. Dès que tu bouges, il y a quelqu'un qui te pousse. Physiquement, c'est intenable à un moment.
Non, mais c'est là où ils ont besoin d'un meneur.
Bah, ils ont besoin de quelqu'un qui fait plus de pick and roll, mais en même temps, quand il va au pick and roll, souvent il est bumpé aussi. Hein.
Oui, mais qui l'empêche de monter.
Il ne laisse pas monter tranquillement. Hein.
C'est dur, Pierrot, hein. C'est dur. Mon grand.
Physiquement, c'est une vraie finale.
Non, mais que ce soit dur, je comprends très bien les explications. Mais malgré tout, il y a quand même des situations où. Enfin, je ne sais pas, ça a l'air perdu d'avance. C'est-à-dire que quand Victor est arrêté. Et à le ballon comme un meneur, ça donne rarement quelque chose à part un 3 points réussi, mais sinon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un vrai meneur dans cette équipe. Non
c'est ça, faut le mettre dans de bonnes conditions. En début de match, il est parfait, il est super bien servi avec des passes lobées où il est dans des conditions parfaites. Mais pour voilà, le problème d'un vrai meneur, Castle qui est quand même très jeune, et pour moi Castle c'est pas un vrai meneur, c'est plus un combo guard, un poste 2
Avec un gabarit de meneur de jeu.
Oui, mais tu vois, genre c'est pas. Alors c'est un très bon passeur, mais il y a pas le côté Vista etc. Il fait tellement de bonnes choses. Ça devrait être Fox qui devrait faire ça. Et Fox, quand tu le vois sur certaines séquences.
Le
pick and roll, tu te demandes pourquoi ils abusent pas de ce pick and roll un peu plus. Il y a vraiment sur des séquences où vraiment tu as Fox qui prend le ballon tête de raquette, pick and roll,
c'est pas Wemby qui dit,
pick and pop, et voilà quoi. Ah,
c'est épuisant physiquement d'aller faire des pick and roll à chaque fois. Donc peut-être que Wemby, sur la fin, il dit les gars, on va faire autre chose, on va faire du jeu sans se croiser, sans avoir besoin d'apporter des écrans, parce qu'une nouvelle fois, c'est physiquement extrêmement difficile de tenir sur tout un match à faire que des pick and roll.
Bien sûr. Vraiment. Et un des problèmes aussi des Spurs, c'est que tu n'as personne derrière Wemby au relais de Victor pour pouvoir aller l'aider un peu physiquement. Ah, voilà, quand tu vois que ta première rotation derrière, c'est Luke Kornet, et qu'après, tu n'as personne d'autre.
Ouais, 9 minutes, Luke Kornet.
Ouais, et ouais. Alors, tu n'as personne pour mettre un peu de viande dans la raquette des Spurs, alors que de l'autre côté, côté Knicks, tu as tellement de garçons qui peuvent être costauds. Même, tu vois. Alors, entre Robinson, entre Kat, même entre Oji Anunoby, Josh Hart. T'as tellement de garçons très costauds qui vont l'emmerder.
Mitchell Robinson est un point mort pour les Knicks. Hein. Défensivement, il est dramatique, Mitchell Robinson. Je ne sais pas pourquoi, il est dit « je veux dormir avec Victor Wembanyama ». Mec, il ne parle pas, il n'annonce rien. Il est comme ça, tête à tête avec Victor Wembanyama. Il ne le lâche pas, il n'y a aucune communication. Il fait beaucoup de mal à son équipe hier, Mitchell Robinson.
Alors, sur le match 2, il avait été précieux. Oui. Il avait été précieux.
Alors, on va passer plus précisément au match de Wemby.
Like Chuck said, like he's flustered, and you can't be flustered at this. I know you're down 0-2, but listen, as that guy on that team, you just gotta step up.
Wemby à deux points. Non, c'est loupé. C'est loupé.
He wasn't focused, and he needed to be more focused. You don't say that either.
Alley-oop to Wembanyama. Perfect pass from Castle, and a lead is up to 3.
Good ball movement. Towns fakes a 3, finds Brunson, extra pass. Shamet off the bounce inside, layup blocked by Wemby.
When I'm talking about big man, I don't want you to be like me. I want you to have a certain mentality, the same mentality that I saw him have, the same mentality that I saw Patrick Ewing have.
Alors, les finales de Wemby jusqu'ici, sont-elles satisfaisantes? Est-ce qu'il doit faire encore plus? Alors, je dis encore plus parce que d'un point de vue statistique, c'est quand même très bon. Ouais,
c'est monstrueux.
Alors, sauf peut-être au rebond, non? Il est en dessous de ses standards.
Quasiment à 10 rebonds de moyenne.
Et vous l'attendez pas plus au rebond?
C'est difficile de dire ça parce qu'en fait, une nouvelle fois, il est bumpé à chaque fois. Il est le point d'ancrage, mais surtout de fixation pour les Knicks. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils voient un rebond partir, ils vont tous faire le box-out sur Victor. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile de prendre des rebonds. Et puis, il est souvent attiré par l'extérieur aussi pour essayer de défendre sur tout le monde. Donc forcément, t'es un petit peu en retard. Mais par rapport à ta question initiale, de savoir si on attend plus, moi je trouve qu'il apprend à chaque fois. Au contraire, le match qui vient de sortir là, c'est la preuve qu'il a appris sur les premiers matchs. C'est un match solide, c'est un match incroyablement dur. Et tu te dis, c'est quand même au Garden, quoi. C'est quand même, normalement, c'est la mec du basket, tu peux avoir un petit peu de pression, tu viens te rater, entre guillemets. Vraiment, je mets vraiment des grosses guillemets, parce que les gens disent qu'il s'est raté. Oui, voilà, c'était pas terrible.
Son match 2 n'est pas bon, on peut enlever les guillemets. Alors, sur le Money
Time,
c'est...
Son match 2, il n'est pas si mauvais que ça, le Money Time, il fait une ou deux erreurs.
Mais pas si mauvais que ça, quand tu es en finale, bon.
Non, mais évidemment.
C'est un match 2 en deux temps, sa première mi-temps, et avec 4 tirs sur une première mi-temps.
Ouais, c'est ça, et puis, il est à 11 points 7 rebonds sur le dernier carton.
Oui, il est monstrueux.
Il est monstrueux, alors il commet une erreur.
Après, tu retires. retient le money time, les deux tirs ratés.
Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a ces deux erreurs là, peut-être même trois. Mais dans l'absolu, il fait pas un match aussi horrible qu'on peut le décrire.
Oui, donc, mais l'erreur est colossale.
Là, il a progressé encore. Il a appris. Il a compris qu'il fallait attaquer le cercle, être plus présent près du cercle. Mais surtout, une nouvelle fois, les 72 heures lui ont fait beaucoup de bien physiquement et ça se voit. Il est frais mentalement, il est plus frais physiquement et ça lui permet d'attaquer le cercle et justement d'être plus près. Et plus près du texte, j'ai envie de dire, il me shoot moins à 3 points, quoi, tout simplement.
Sur le match 2, sur le côté fraîcheur physique, tu le voyais très bien. En fait, à chaque fois, il avait du mal à finir les mi-temps, que ce soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps. Et tu sentais qu'il y avait un manque de lucidité. Pareil, la première mi-temps du match 2, alors oui, il prend que 4 tirs, mais c'était aussi dramatique sur ses choix. Il perd 2-3 ballons, il envoie des ballons en tribune, sans qu'il était complètement carbo. Mmh. Après, pareil, il repart assez fort deuxième mi-temps, parce qu'il s'est reposé avec au vestiaire, etc. Et bah, à la fin du match, il contribue aussi au run des Spurs, mais voilà, sur le money time, tu sens qu'il a un manque complet de lucidité. Et bah, son erreur, elle est colossale sur la passe qui manque à Kassel.
Oui, mais c'est pas parce qu'il fait une erreur que son match est extrêmement mauvais. Il fait deux, mais ça gâche
le match.
J'ai même envie de dire deux, parce que le shoot qu'il prend sur Mitch Robinson avant, moi, il est pas bon aussi, parce qu'il n'attaque pas. Et tout ça. Oui. Je parle même pas du dernier, je parle du dernier.
Je suis d'accord avec 0 degré là-bas.
Ouais, 0 degré. Tu dois essayer de l'attaquer, tu dois essayer de bouger. Mais ça va.
Après, des grands joueurs qui font des erreurs en finale NBA. On se rappelle tous de cette passe dans le dos que tente Steph Curry en finale NBA qui arrive en tribune. Ça existe. Hein. Les plus grands stars ont déjà fait des conneries dans des money time. Maintenant, pour revenir après trois matchs sur les finales de Victor Wembanyama, moi je trouve ça impressionnant en fait. Les chiffres sont monumentaux et la progression par rapport au match 1 où le match 1 il est en travers en termes d'adresse et ce qu'il a produit hier, il a dit c'est un mec qui continue à progresser, qui continue à apprendre. C'est un mec qui a sur ses épaules les yeux du monde entier sur Victor Wembanyama, l'alien, c'est lui qui doit faire que les Spurs doivent être champions NBA. Moi je trouve qu'il assume ce statut à merveille et ce qui est marrant chez Victor, ce qu'on voit pas chez... Il y a des mecs qui sont fatigués mais tu n'arrives pas à le voir. Chez Victor, je trouve que tu le regardes courir, tu vois s'il est fatigué. Quand il commence un peu à être un peu penché en avant sur les traversées de terrain, je trouve que tu vois rapidement dans quel état physique il est.
Après, c'est peut-être comme il a des longs segments, il se penche un peu comme ça
pour traverser et tu te dis oula, j'ai l'impression que Victor il a le capot qui fume. Mais moi, sur ces finales NBA, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Enfin, ce match 3 où tu vas gagner au Garden, où tu fais 32, 8 et 6 à 11 sur 18 au tir, enfin, moi je trouve ça fort. Alors peut-être qu'il y en a qui en attendent plus parce que c'est l'alien. Mec, c'est ses premières finales NBA, il a 22 balais, c'est le leader d'une équipe qui est très très jeune. C'est compliqué pour moi de mettre des bémols sur les trois premiers matchs.
Mais il a gaffe quand même, parce que ça joue en Benjamin, il shootait beaucoup, donc il peut comparer.
C'est vrai, c'est vrai. Sans capot qui fume.
Ce qui a fait mal et ce qui a valu sûrement des commentaires négatifs, c'est que dans le Money Time, il a été surclassé, je veux dire, par Brunson, qui n'a pas été forcément très bon, mais qui a été décisif, ce que n'a pas été capable de faire Victor.
Oui, mais je pense qu'il faut, il y a deux lectures à avoir. Jalen Brunson, c'est un mec qui va shooter entre 25 et 30 fois par match, et il le fait. C'est pas l'ADN des Spurs de Victor, que Victor prenne 25 à 30 tirs par match. Tu regardes les stats de Jalen Brunson, les pourcentages par rapport à la saison régulière, tout est en baisse.
Sauf qu'il t'a fait gagner les deux premiers matchs, c'est ça qui a valu à Victor.
J'ai une question. Est-ce que tu te rappelles du quatrième carton du match 2? Jalen Brunson met 13 points.
Ouais.
Victor en met 11.
Ouais.
Donc
mais
il met.
Oui, non, mais ce que je veux dire.
D'accord, mais il met le shoot de la gagne. Bah, en fait, t'as plus du tout le même prisme pour un shoot.
Bah exactement.
Bah non, je suis désolé, je trouve que c'est hyper réducteur. C'est extrêmement réducteur. Tu peux pas dire qu'il a été mauvais. Il a pas mis le dernier shoot. Effectivement, c'est la différence entre un gagnant et
celui qui a deux shoots ratés et une passe Qatar.
Non, puis cette passe, franchement, faut y revenir. Si c'était quelqu'un d'autre qu'un joueur français, on lui tomberait dessus. Imaginez
Donovan Mitchell ou Harden fait ça, exactement.
Non, mais c'est bon parce que
c'est une énorme erreur, oui, voilà.
Non, mais est-ce que Brunson, il est irréprochable sur les matchs? Il rate un lay-up dans le match de
l'homme.
Il rate un lay-up.
Mais quand...
Tout seul.
Oui, mais d'accord. Mais...
Bah donc, c'est aussi, au moins aussi grave, en fait.
Mais quand les matchs sont serrés, c'est-à-dire que quand quand t'as pas fait la différence avant sur tes points forts et que ça joue sur la maîtrise du Money Time, eh ben, sur les deux premiers matchs, il ne l'a pas fait. Sur le troisième, il l'a fait. Donc là, bravo pour la progression. Mais je pense que les critiques, elles étaient normales. Elles étaient justifiées. Ça reste un énorme joueur.
Dans son statut, c'est normal qu'il y ait des critiques. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. À la question, est-ce qu'on défendrait plus un Victor qu'un Brunson? Non. Parce qu'il rate des Léo Brunson. Et finalement, comme il met le dernier panier, tout le monde l'encense.
Et puis, ces deux garçons, Jalen Brunson, il est au départ de toutes les actions, c'est lui qui a le ballon en main en premier, donc quand même plus facile de remonter le terrain avec le ballon en main et d'avoir des décisions à faire. Victor Wembanyama, il peut remonter le ballon, sauf qu'il est dépendant aussi de où il reçoit le ballon, de ses joueurs extérieurs qui lui donnent la balle. Jalen Brunson, c'est le premier garçon qui touche la balle et c'est souvent le dernier aussi à toucher le ballon. Donc il y a quand même plus de chances, de possibilités de créer du jeu et d'avoir des actions positives que Victor. Il est aussi dépendant de où il se trouve, comment on lui donne la balle et ce qui se passe autour de lui.
Après, en plus, il est extrêmement cloche. Bon, tu peux dire ce que tu veux, mais il est extrêmement cloche, effectivement. Parce que les shoots qu'il met, John Brunson, ils sont juste incroyables.
Il a une faculté à aller trouver les
spots dans lesquels il est hyper fort. À chaque fois, il va trouver les shoots et les spots où il surperforme. Et tu l'avais dit un peu, Pierrot, la semaine dernière. En fait, c'est ce garçon où t'as l'impression que quand il veut scorer, tu pourras pas l'empêcher de scorer.
Et tant qu'ils ont ça, ils pourront gagner la finale.
Il y a une petite musique lancinante depuis hier. Il y a beaucoup de gens qui disent que Jalen Brunson, son match d'hier, il le joue pour être MVP des finales, il le joue pas pour gagner le match 3.
Après, il vient aussi au relais de Towns qui passe au travers.
Parce qu'avant le match d'hier,
qui est bien défendu, en position d'être le héros du match, je veux dire.
Je connais la question, Karl Anthony Towns.
Voilà, avant le match d'hier, qui est MVP des finales? C'est Jalen Brunson ou c'est Karl Anthony Towns?
C'est bien match.
Ouais, non, c'est Towns.
Il se dit, bon, j'ai envie que ce soit moi quand même.
Ce qui veut dire quoi? Qu'il s'est mis en position d'être le héros du match?
Il prend beaucoup de shoots.
Mais il est obligé, parce que Towns est tellement bien défendu et tellement en galère sur ce match que tu dois prendre ce relais. Quoi.
Non, là, on ne va pas lui en vouloir, c'est un mec tellement extraordinaire.
Après, il faut parler du match de Giannobbi aussi. Giannobbi, déjà depuis la campagne des playoffs, il est exceptionnel. C'est un mec, c'est monsieur propre. Il donne 13 tirs. Hein. Il met 28 points en prenant 13 tirs seulement hier. C'est un mec qui est énorme, poste 3, qui défend. En plus, c'est deux côtés du terrain. Il est monstrueux. Giannobbi, c'est quand même très, très, très fort.
Moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'il a l'énergie d'attaquer Victor tout le temps. Il va lui dunker dessus quand même.
Et Victor a du mal à défendre.
Victor a du mal parce qu'il sort trop fort à chaque fois.
C'est dur parce qu'il va très vite. Il est très puissant, Giannobbi. Et sur les déplacements latéraux, il y a encore du travail à faire.
Il peut mettre dedans. Donc, Victor, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire l'impasse sur le terrain sur Giannobbi? Donc, s'il est un peu sur pression, l'autre, c'est quand même un garçon qui va plus vite que Victor Wembanyama.
Et en plus, il est hyper intelligent.
Donc, c'est dur, c'est compliqué.
Mais c'est vrai que
tu as
l'impression que c'est celui sur lequel. C'est peut-être le seul sur lequel Victor a un peu de mal à défendre.
Il a beaucoup de mal à défendre. Anthony Towns sur les deux premiers matchs, c'était dur.
Oui, mais c'est pas systématique. C'est l'impression que Anunobi comprend très bien comment il faut l'attaquer.
Et Anunobi, contrairement à tout ce qu'on a vu sur toute la saison, il va au bout du drive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui drive Victor et après qui lâche la balle. Lui, il se dit, moi, je vais aller au bout, en fait, voir s'il est vraiment capable de m'arrêter. Sur le match 2, il va mettre un dunk sur Victor Wembanyama.
Mais au contact, qu'on a
rarement vu cette saison. Il va au bout de ses actions sur le drive. Il se dit, je me fais attraper, mais je vais quand même aller au bout. Et puis, tu n'es pas à l'abri que Victor fasse une faute, deux fautes, qu'il soit en danger de faute.
Donc, et c'est pour ça qu'il est fatigué aussi. Parce que les mecs l'attaquent. C'est la première équipe que je vois attaquer vraiment Victor.
Alvarado, il rentre. Il joue, il met des pull-ups sur la tête de Victor.
Il l'attaque, ils le font défendre, ils l'obligent à bouger. En fait.
Sur les deux premiers matchs, il part de 3 points, il va l'attaquer sur du dribble, chose qu'on n'a jamais vue depuis le début de saison.
Et défensivement, je trouve qu'on en demande aussi beaucoup à Victor et pourquoi il est aussi fatigué des fois, c'est que moi, des fois, je suis fatigué pour lui de voir à quel point on lui demande des choses et de venir combler les trous, les close-out, etc. Oui. Mais les Spurs ont toujours défendu comme ça.
Hier, ils le mettent sur Josh Hart pour justement de contrôler beaucoup de choses et se dire écoute, Josh Hart, si tu mets 9 tirs à 3 points, on tapera dans la main, on te dira bravo. Mais ça permet à Victor.
Sur les deux premiers matchs, Victor il est en galère parce que le ballon du coup des Knicks circulait très bien et Victor tu le vois, il est en train de courir dans tous les sens, essayer de couvrir tous les espaces et au bout d'un moment en fait ça finit par tomber dedans et Victor il tire la langue quoi un petit peu.
Qui est le meilleur joueur pour l'instant de ces finales?
Tu veux au global
par
ou de chaque
au global.
Prendre en compte que les Knicks mènent d'un.
Bah oui.
Bah forcément.
Moi je pense que je mets quand même Brunson. Après le match 2, j'aurais mis Towns parce que vraiment, sur ces deux premiers matchs, c'était vraiment lui le facteur X. En plus, dans son match-up avec Victor,
c'est Brunson
qui remportait.
C'est Brunson ou Victor.
Brunson, ouais, après. Ouais, mais du coup, ce qui fait la diff pour moi entre Brunson et Victor, c'est que justement, il y a 2-1 pour les Knicks. Et du coup, voilà, faut pas être trop non plus dans l'instant présent. Là, on vient de finir le match 3. Les Knicks sont quand même devant, ont toujours la
pression. Il faut pas non plus dire que les deux victoires des Knicks à San Antonio, c'est deux victoires fingering the nose.
Non, pas du tout.
Les Spurs sont d'avance. À chaque match, ils sont devant.
Oui, mais Brunson, sur l'intégrité des trois matchs, il est clutch dans les trois matchs, il est présent dans les trois matchs. Là où
Alors je te rejoins sur il est clutch, il est pas présent sur les trois matchs. Hein, pendant une grande partie des deux premiers matchs, il est complètement à l'ouest, Brunson. Hein.
Et alors, il est présent dans sa clutchitude, si tu préfères. Voilà.
Non, mais après, ce qui joue aussi en sa faveur, c'est qu'ils ont gagné des matchs comme ils se font depuis le début de des séries de playoffs. Et donc, je trouve que c'est eux qui dictaient un peu quand même pas le rythme des matchs, mais l'histoire de ces finales. C'est-à-dire qu'ils ont gagné à la Knicks avec des runs de fou, avec des moments où il est inarrêtable et avec des money time où ils sont plus clutch.
Mais de manière globale,
donc,
t'as l'impression
que le match d'hier met un peu un stop à cette histoire-là.
Oui, surtout ça met un stop aux 13 séries consécutives.
On va voir le match 4 va être important. Hein. Je pense que si New York le prend, je pense que ce sera très très compliqué malgré tout. Hein. Ouais, c'est ça le problème.
Bah, on peut avoir une belle nuit justement.
je pense que là-bas, personne n'en aura rien à cirer de France-Sénégal.
La Coupe du Monde. Ah ouais.
Ah ouais.
C'est le jour du match aussi, je crois, le France-Sénégal.
Oui, oui. C'est pas très grave, hein, mais bon, on suivra ça quand même.
Tu vas regarder quoi, toi, les deux. Ah, c'est à quelle heure, France-Sénégal?
C'est 23h, non?
C'est 23h, ouais.
Ah, tu peux
non, c'est pas 21h.
Tu peux te faire un bon enchaînement.
C'est 21h, je crois.
21h.
21h, ah non. Ouais. 21h, c'est fini à 23h. Après, tu craques physiquement.
Ouais, là, t'es mort. Tu peux pas tenir.
Le problème, c'est qu'après les finales NBA, il va y avoir les matchs de Coupe du Monde la nuit. Ça, je sais pas comment on va faire.
Après, on pourra faire des choix. Des affiches.
Après, c'est les affiches. Je vais pas me lever à 3h du mat pour Curaçao ou Haïti.
Non, mais pour Brésil-Maroc, oui.
Brésil-Maroc, c'est intéressant.
C'est ça le problème.
Est-ce que après France-Sénégal, vu que c'est à New York, les footeux vont aller voir le match 6 au Garden?
Alors, ils ont demandé à Didier Deschamps. Ouais, ça va être une histoire.
Koundé, il en a parlé justement, ouais. Il a un peu rigolé là-dessus.
Qu'est-ce que tu fais, toi, Fred?
Non, mais ils ont fait une demande.
Non, mais qu'est-ce que tu fais si t'es Didier Deschamps? Tu les laisses partir au Garden?
Bah, pour moi, oui.
C'est chaud. Pour moi, c'est chaud aussi. L'enchaînement, c'est chaud quand même.
Pour moi, oui, parce que ça changera pas grand-chose. En fait,
c'est fatigant d'aller voir un match.
Après, attention,
ça,
est-ce qu'ils vont avoir 30 places pour aller voir un match final? C'est pas sûr. Et qui va raquer? Là, par contre, pour moi.
Philippe Diallo.
Pour moi, Deschamps doit leur dire oui, parce que ça sera.
Et démerdez-vous.
Démerdez-vous, exactement. Et surtout, vous payez. Parce que ça va coûter une tonne. Hein.
Ça va coûter une tonne. Sauf s'ils sont invités par Nike ou par leur équipementier.
Mais en tout cas, la Fédé ne doit pas payer. Il ne faut pas exagérer. Pas
après, et si tu prends 2-0 contre le Sénégal, tu changes. tu leur dis allez-y quand même ou pas?
Ça, c'est une vraie question.
Mais si, il faut se laver la tête, au contraire.
Mais il faut faire en sorte
par contre,
de. Par contre, vous ne montrez pas trop.
Par contre, il faut que le bus de la.
Vous ne montrez pas trop. Tu crois que la caméra va faire quoi?
Par contre, il faut que le bus les dépose au Garden, reste devant, et dès que le match est fini, tout le monde dans le bus, et on rentre à l'hôtel.
Donc, c'est la Fédé qui paye.
Il ne faut pas que les 2-3 qui s'éparpillent à droite à gauche à New York.
Bon, allez, on a fait le tour.
Oui.
Allez, partie historique.
To the Phoenix Suns. You fought hard. You had a tremendous season. Congratulations. And the Milwaukee Bucks. To the city of Milwaukee. It's been 50 years. That makes it all that much sweeter. To Mark Lazary, to Wes Edens, to Jamie Dimon, to Mike Fascitelli, to GM John Horst. Where's coach? Mike Budenholzer. What a tremendous job. And ladies and gentlemen, the 2021 NBA champions, you're Milwaukee Bucks.
Alors, jamais une équipe n'est revenue d'un 3-0 en finale. En revanche, il y a quand même eu quelques remontées. Les Bucks, par exemple, Félix.
Bah, il y a eu 5 équipes exactement dans l'histoire qui ont été championnes NBA après avoir été menées 2-0. Et les Bucks sont les derniers en date dans une série qu'on a un peu trop vite oubliée à mon goût. C'était en 2021 contre les Suns. Donc, petite présentation déjà des forces en présence. D'un côté, tu avais Phoenix qui arrivait avec 51 victoires en saison régulière. C'était la deuxième meilleure équipe de la Ligue. On avait évidemment Chris Paul, 16 ans de carrière, jamais en finale. Donc c'était le moment ou jamais pour le point guard. À ses côtés, tu avais évidemment Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, là qu'on retrouve avec New York, Jake Roder. Bref, c'était une équipe qui était passée de la belle surprise de la bulle un an plus tôt à candidate au titre. À Milwaukee, tu avais évidemment Giannis Antetokounmpo, double MVP en titre, sauf qu'il arrive en finale avec un genou qui est explosé. Il a été victime d'une hyperextension lors des playoffs qui l'a fait manquer 2 matchs en finale de conf contre Atlanta. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'état de Giannis Giannis Antetokounmpo. Autour de lui, tu as une équipe constituée de Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez, qui était ses lieutenants, ou encore le bon vieux Bobby Portis en facteur X.
Axel Toupane aussi.
Hein, Axel Toupane était là, bien sûr. Donc ça, c'était le casting. Maintenant, voilà, place à cette série qui va devenir historique. Pourtant, c'était très mal parti pour les Bucks et pour le suspense. Game 1 à Phoenix, Chris Paul, 32 points, 9 passes pour ses débuts en finale. Les Suns s'imposent 118-105. Giannis est là, mais il gère un peu son genou. Les Suns prennent le match sans forcer. Match 2, rebelote, toujours à Phoenix. Paul Booker, Ayton combinent 81 points à eux 3. Giannis répond quand même avec 42 points malgré un genou qui lui fait toujours mal. Mais ça ne suffit pas. Phoenix mène 2-0 après les deux premiers matchs à domicile. À l'époque, tout le monde, tous les médias, tout le monde dit que c'est déjà plié. Les Suns vont être champions quand on écoute les observateurs. Giannis est blessé et sans le grec à 100%, les Bucks sont finis. Voilà ce qu'on entend un petit peu partout après ce 2-0. Donc on débarque à Milwaukee dans le match 3. Et ça, c'est là, il y a une toute autre ambiance. Giannis explose les compteurs. 41 points, 13 rebonds, score final 120-100, une correction. Holiday Middleton qui était transparent sur les deux premiers matchs se réveille et combine 39 points à eux deux à 50% au tir, pendant que les stars des Suns galèrent un petit peu plus de leur côté. On retrouve Chris Paul un peu plus transparent. 2-1, la série est relancée.
L'histoire de sa vie. Hein.
Ouais, joli bruitage, Pierrot.
Non, je suis dépité pour le pauvre Chris Paul.
Match 4, et là on arrive dans le match,
belle quand même, hein.
Le match qui change beaucoup de choses, et un match qui est historique, le match 4, un match complètement dingue. À 1 minute 28 de la fin, Middleton, qui était à 40 points sur ce match, donne l'avantage aux Bucks, 101-99, balle pour les Suns. Booker rentre dans la raquette, envoie un lob vers Ayton qui se retrouve seul sous le cercle, personne entre Ayton et le panier, et voilà la suite. Booker with Tucker on him, throws it up for Ayton, shot blocked by Antetokounmpo, what a block from Giannis, sensational block shot, this is one of the great recovery plays you'll ever see, the lob Booker to Ayton, we've seen it many times, and that reaction and block is special. Alors qu'il était en train de défendre sur Booker qui était à la passe de ce alley-oop, Giannis se retourne à une vitesse surréaliste et arrive à contrer Ayton. C'est inhumain car là vraiment t'as un mec qui est sur la même action, arrive à défendre sur le passeur, à se retourner et à contrer le dessinateur du alley-oop. D'ailleurs après le match, Giannis il l'a dit lui-même, il a dit: je pensais qu'il allait m'écraser le dunk sur la tête, pour être honnête, mais dans ces moments-là tu fais tout ce qui est physiquement possible pour gagner. Et ça a fonctionné parce qu'au-delà du côté spectaculaire, ce contre il est surtout ultra clutch parce qu'il permet aux Bucks de s'imposer. Égalité de partout, la série repart de zéro et tout vient de basculer. Match 5, victoire des Bucks qui passent à 3-2, notamment grâce à Jrue Holiday qui fait une interception à 15 secondes de la fin alors que les Suns avaient la balle de match. Jrue Holiday part en contre-attaque, balance un lob pour Giannis qui conclut un alley-oop. Donc Milwaukee gagne de 4 points et a une balle de match à domicile donc, parce qu'il mène 3-2. Match 6, match qui fait rentrer Giannis dans l'histoire, 50 points, 14 rebonds, 5 contre, 17-19 au lancer franc, sachant qu'on se moquait pas mal de lui pour son adresse au lancer. Giannis est tout simplement surréaliste. Premier joueur de l'histoire à scorer au moins 40 points, prendre 10 rebonds et claquer 5 comptes dans un match des finales. 50 points dans un match pour clôturer une finale NBA, c'est aussi un record égalé dans toute l'histoire de la Ligue. Donc les Bucks deviennent la cinquième équipe de l'histoire à renverser un 2-0 en finale. Tout ça grâce à Giannis qu'on pensait hors course après sa blessure au genou quelques semaines plus tôt et qui nous sort des perfs all-time et des highlights légendaires. Ça le fait rentrer lui du coup dans la légende. Donc voilà, c'est une série historique et je voulais qu'on en parle parce que c'était il y a que...
Oh, tu fais un podcast dans le podcast.
Heureusement qu'il n'y a pas de match 7 parce que sinon il va rater son bus, Fred.
Là, je voulais qu'on mette un peu de respect sur Giannis parce que c'était qu'il y a 5 ans et je trouve qu'on a oublié les finales.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Giannis, il manque dans ces finales-là. Il faudrait qu'il retrouve une grosse équipe, soit à Milwaukee, soit ailleurs.
Il y a beaucoup de monde qui manque.
Oui, mais lui particulièrement, je trouve. Parce que bon, KD, on l'a beaucoup vu, c'est pas grave, tu vois.
C'est fou le changement de perception que tu as eu, Giannis Antetokounmpo.
Ouais, mais ça, je l'ai dit hein, un jour. Hein. Je suis devenu Giannisophile alors que je supportais pas ce jeu physique. Mais bon, il n'y a pas que du physique quand même. Non?
Oui, non,
il y a quand même un peu de basket, quelque chose.
Non, ouais. Belle finition.
Moi, ce que j'adore chez lui, c'est aussi son mental de
gars.
Voilà,
ouais, c'est un mec très attachant. Très attachant. Par contre, un échange, je ne sais pas si ça va suffire en termes de masse salariale, mais un échange Giannis et Ryan Rollins contre Castle, Fox et Johnson.
Non,
ça suffit ou pas?
Non, mais Castle, tu ne peux pas l'envoyer.
Non. Si, il faut.
Non,
sinon, tu ne peux pas
venir Giannis. Fox, Keldon. Et ça ouais, marche au niveau des salaires. Et non, des pics de draft.
Oui, mais jamais ils te disent oui.
Des pics de draft. Des pics de draft.
C'est bien, ça fait fantasmer, c'est content.
C'est pas possible.
C'est content. Après, déjà, en termes de spacing, Yanis, Victor et Mbanyama.
Oui, je suis pas sûr que ça sera hyper
chaud. Bah, tu veux que Victor joue près du cercle. Ouais, Yanis joue près du cercle.
Bah, c'est pas grave, chacun son tour.
Non, il faut un poste 4 qui stretch un peu pour côté des.
Bon, alors, tant pis pour vous, je l'envoie à Golden State.
Non, à Miami.
De quelle remontée vas-tu nous parler, Fred?
Il n'y a pas le temps.
Alors, Miami-Dallas 2006. Dallas mène 2-0 après deux matchs. Mmh. Mais c'était la formule 2-3-2.
Pourquoi tu as choisi ça?
Mais parce que j'aimais bien.
Non, et donc,
2-3-2. Tu sais pourquoi 2-3-2? Parce qu'à l'époque, c'était deux matchs chez le mieux classé, trois chez l'autre. Et deux,
c'était pas mal, d'ailleurs. Les deux,
ben non, c'était horrible. Parce
non,
que ça
c'est pas mal, parce que si tu gagnes l'avantage du terrain, t'es vraiment bien.
Oui, mais t'es bien quand même. Parce que même si tu perds les deux premiers, t'as trois matchs chez toi après. Donc ça veut dire que tu mets une pression énorme si tu reviens. Bon, peu importe. C'est exactement ce qui s'est passé. Match 1, 90-80. Match facile pour Dallas. Match 2, 99-85. Chaque ne met que 5 points. C'est catastrophique. Et tu dis, ben voilà, Dallas va forcément gagner les matchs assez facilement. Tout va bien se passer. Sauf qu'au match 3, ils sont à 6 minutes 34 de la fin. Ils ont 13 points d'avance, les joueurs de Dallas. Malgré ça, ils vont perdre avec un Dwayne Wade à 42 points, 13 rebonds. Ce match ça finira à 98-96. Match 4, Dirk Nowitzki qui est pas très bien, 16 points,
il va pas citer son nom une fois.
À 2 sur 14 au tir, 98-74, on se retrouve à 2-2, match 5, ton match important évidemment. On se retrouve sur une fin de match compliquée après prolongation. Dwayne Wade va avoir 25 lancers francs sur l'ensemble du match.
Cheaté cette finale, mec.
21 sur 25, et justement, dernière action qui va se terminer au bout du suspense avec deux lancers francs de Dwayne Wade qui va permettre à son équipe de s'imposer 101-100. Et on va finir par un 95-92 sur le dernier match. Et finalement, ce sera Miami qui sera imposé assez logiquement, grâce pour moi à cette formule qui était compliquée. Et on se rappellera de beaucoup de choses, notamment que Dwayne Wade sera quasiment 39 points de moyenne sur les 4 dernières victoires, que Dwayne Wade aura eu 25 lancers francs sur le match 5.
Et que, arbitrage scandaleux.
Et qu'à 6 minutes 34 de la fin du match 3, Dallas menait encore de 13 points.
Oui, mais Dwayne Wade, fantastique player.
Fantastique.
C'est bien de le rappeler de temps en temps.
Voilà.
N'en déplaise à Steve, parce que dire qu'on le dit tout le temps que c'était un fantastique player.
Oui, mais là, c'est Miami qui gagne plus l'arbitre. Ça fait beaucoup pour Dallas.
Non, Miami, c'est très très fort.
Avec chaque en gros patapouf. Hein.
Ouais, mais qui sur le match 2 ne met que 5 points, qui passe complètement à travers et finalement, il s'impose.
À toi, Steve.
T'as vu, je l'ai fait beaucoup plus court que.
Parfait, c'est
on
parfait.
On attend. Bah écoute, moi, c'est la remontada la plus historique et la plus connue, celle de 2016 entre les Warriors et les Cavs, parce que les Cavs ont fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. On rappelle que cette saison-là, les Warriors battent le record des Bulls en saison régulière avec 73 victoires pour 9 défaites. Une saison régulière, les Warriors n'ont jamais perdu 2 matchs de suite et c'est les Warriors sans KD. Hein. C'est la version avec la version originale avec Steph Curry, avec Klay Thompson, avec Harrison Barnes, Andrew Bogut. Et André Iguodala, il débarque en finale NBA en ayant souffert en finale de conf face à OKC où il gagne 4-3 et puis après KD rejoindra les Warriors, on connaît l'histoire. Les Cavs, eux, ils ont 57 matchs gagnés en saison régulière, numéro 1 à l'Est, et eux, ils se sont frisés les moustaches en playoff, 4-0 premier tour contre les Pistons, 4-0 contre les Hawks et 4-2 contre Toronto. Les deux premiers matchs à Golden State, c'est deux blowouts, deux roustes pour les Warriors, 104-89, 110-77 avec
110-77
avec notamment cher. 28 points de Draymond Green au match 2, suffisamment rare pour être souligné. Ensuite, ça part pour l'Ohio, match 3, large victoire aussi. Donc, trois premiers matchs, trois blowouts, 120-90. Les Warriors gagnent le match 4 à Cleveland avec 38 points de Steph Curry. Et là, la fameuse stat sort. Jamais une équipe n'a été championne NBA en étant menée 3-1. Match 5 à Golden State. Sur ce match 5, on va peut-être assister à la plus grande performance en playoff de la part d'un binôme de la même équipe. Kyrie et LeBron vont cumuler 82 points, 41 points chacun sur les 112 de leur équipe pour prendre un deuxième match et revenir à Cleveland à 3-2. Match 6, LeBron, lui, va cumuler 82 points sur deux matchs consécutifs parce qu'il remet 41 points sur le match 6 en plus de ses 11 passes et des 8 rebonds. Ça fait 3 partout. On repart à Golden State pour un match 7 avec un money time en apnée. Le seul vrai money time de cette série et surtout un très petit score. Steph Curry et Klay Thompson passent totalement au travers de ce match 7. On a peut-être tendance à l'oublier, mais ils sont à 12 sur 36 au tir, dont 6 sur 24 à 3 points. Le meilleur joueur des Warriors, c'est qui? c'est Draymond Green. 32 points, 15 rebonds, 9 passes, Draymond Green, sur le match 7. Et on se rappelle de ces dernières minutes complètement dingues où il n'y a personne qui marque. 89 partout, tir loupé de Kyrie, contre-attaque, 2 contre 1, la passe de Curry pour Iguodala, le contre iconique de LeBron James. Et ensuite, LeBron James, qui, comme à son habitude, ne veut pas prendre le tir de la gagne, donne la balle à Kyrie Irving, qui fait une isolation sur Steph Curry. Le sidestep, step back de Kyrie Irving, qui met le tir à 3 points, filoche, et les Cavs vont devenir champion NBA dans la remontée la plus incroyable de l'histoire de l'NBA, Pierrot.
C'est le plus gros accomplissement de LeBron James ?
Oui.
Oui.
Et c'est ce qu'il fait passer dans une autre dimension, ce qu'il fait
gagner les cartes, ça
franchit David. Moi avant j'étais un LeBron hater et à partir de ce moment non, mais à partir de ce moment-là t'es obligé de le respecter quand il fait ça à partir de cette saison.
Je vais respecter Kyrie.
Allez, on passe au quiz.
Le sport co permet de côtoyer des gens avec des caractères totalement différents et ce qui est bien, c'est de cet assemblage de caractères forme une équipe.
Voilà, écoute, ça faisait 6 mois que j'avais pas joué au basket. Voilà, c'est comme le vélo, j'ai l'impression. C'est vraiment très facile.
C'est quoi les stats ?
10 minutes, j'ai pas joué beaucoup.
J'ai la chance de travailler dans la plus belle radio de sport qui existe, qui est RMC.
Ah ouais, d'accord. Si c'est un assemblage de caractères, tu devrais aimer LeBron James quand même.
Pourquoi ?
Parce que c'est un caractère différent de peut-être de ceux que tu préfères. Comme Jojo ou Dirk.
Oui, non, LeBron est un grand joueur.
Ah oui, quand même.
Donc, qui partent à l'article.
Alors, blind test. Non, il faut qu'il finisse en France.
Peut-être que Tipeee, avec le jet qu'il a à Lasvel, il va peut-être se proposer un truc à LeBron.
Magnifique.
Alors, c'est un blind test pour commencer sur le thème du comeback ou de la résilience. Premier extrait.
Je reviens te chercher.
C'est qui ça,
Moustaki ?
Non.
Je savais.
Abeko.
Ouais, bravo Fred, Gilbert Abeko. Un Abeko, Fred.
Abeko.
Deuxième extrait. Eminem.
Eminem.
Félix, la rapidité. Troisième extrait.
Daft Punk.
Kanye West.
Daft Punk, mais je sais pas.
Kanye West et Dr. Dre.
C'était simultané.
Ah, je pense que c'était en même temps. Mais...
Ah, il a dit Daft Punk.
Ouais, j'ai dit Daft Punk.
À un moment donné, quand un mec s'impose pas, qu'on n'entend pas sa voix,
il m'a très bien entendu.
Je suis assez d'accord.
Pierrot m'a très bien entendu.
On parle d'un gars, ça compte pas.
Un demi-point.
Surtout un mec qui a fait une partie historique de 25 minutes, il ne peut pas prendre le point, gros.
Un demi-point, Steve. Un point et demi, Félix. Un point, Fred. Pour la culture générale, on va faire vite. Je vais vous faire deviner des supporters célèbres des Knicks. Avec des petits indices comme ça, vite fait.
Okay.
Hop, et vous trouvez de qui on parle en courtside. Allez, on démarre avec un premier supporter. Non, il n'y a pas Spike Lee. C'est pour tout le monde.
Chalamet.
Stand Up.
Kevin Hart.
Le flic de Beverly Hills 2.
Eddie Murphy.
Madagascar. Oscar.
Kevin Hart.
Will Chris Smith. Rock, Chris Rock. Et Gifle, c'est Chris Rock, oui. La gifle de Chris Rock. Ensuite, deuxième supporter des Knicks. Gaucher.
John McEnroe,
bravo. Ouh. Excellent, Stephen. Deuxième indice, c'était colérique. Enfin, troisième, non, il y en a quatre. Troisième supporter des Knicks, mezzo-soprano. 45 ans.
Pavarotti. Andrea Bocelli.
Jay-Z. Empire State of Mind.
Rihanna.
Ah, comment elle s'appelle ?
Aïcha
Keys ?
Oui, Aïcha Keys.
Aïcha Keys. Une seule clé.
Elle a perdu ses clés, mais elle a gardé une quand même. Et enfin, des titres de films pour cet acteur. Marie à tout prix.
Non, et puis
Bridget Jones et moi.
Ah, Scarlett Johansson.
Non.
Comment s'appelle la blonde ?
Zoolander.
Oui, mais je sais.
Ah, Ben Stiller.
Ben Stiller. Ouais. Ah,
oui. Comment s'appelle la blonde pour dire Ben Stiller à la fin ?
Je vois pas où t'étais allé.
Bridget Jones, je crois que c'était la
fille. Bridget Jones, ok. C'était Marie à tout prix l'indice. Hein. Donc c'est bon, ça fait 3,5 pour Steve, 1,5 pour Félix et 2 pour Fred. On va revenir sur le match 2. Chacun votre tour. Vous allez me donner un des 7 joueurs qui ont marqué en sortie de banc. Ok ?
Sur le match 2 ?
Sur le match 2. Ok ? Il n'y en a que 7 qui ont marqué en sortie de banc et il n'y a pas beaucoup de gros scores. Hein. Chacun votre tour en commençant par Félix puisqu'il a le moins de points.
Landry Chamet,
il en a mis 13. Fred.
Dylan Harper,
il en a mis 7. Steve.
Miles McBride.
Il en a mis 5 seulement. Bravo. Félix.
Alvarado,
2 puntos.
J'ai plus.
Fred.
Mitch Robinson.
Ah, c'est bon, il en a mis 7. Steve, il en reste 2.
C'est un mec qui a fait un match minable aux Spurs.
Ouais. C'est lui.
Mais peut-être qu'il a mis un panton. Le catcheur, Keldon Johnson, il a mis un panton.
Oui, je crois qu'il a mis un.
Il a mis 3 points. Donc, Steve, c'est bon. Donc, vous avez vos 2 points chacun. Il en reste 1. Rapidité. Allez-y, balancez tous les noms qui vous viennent. Cornet, 1 point. 1 point. Un punto. Uno punto, pardon.
Ah ouais, Félix. Un but.
Et 0 pour Barnes et Bryant, qui ont eu du temps de jeu, mais qui n'ont pas marqué. 4,5 pour Félix. 5,5 pour Stephen. 4 points pour Fred, très serré. Nous allons donc passer à Jalen Brunson, pour mieux connaître Jalen Brunson.
Ou Charles Brunson.
Exactement.
Les deux ou aucun des deux.
Jalen Brunson, Charles Brunson, les deux ou aucun des deux.
Charles Brunson, je ne maîtrise vraiment pas.
Il n'y a pas beaucoup
vie.
De questions, hein, parce que les points communs, ils sont rares. Hein, donc, on y va comme ça. Fred.
Fred. Vas-y.
J'ai joué dans 12 hommes en colère.
Charles Brunson.
Aucun des deux. Charles Brunson, il a joué dans les 12
salopards.
Ah oui, t'es tombé dans le piège. Dommage. C'est Henri Fonda, les 12 hommes en colère. Stephen, j'ai des ancêtres lituaniens.
Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?
Les baskets, hein ? Lituanie, basket.
Jalen Brunson. Mais Rick Brunson, c'est vrai, ça m'a l'air d'une famille vraiment très américaine, donc je ne vais pas dire Jalen Brunson. Charles Brunson, Lituanie, je veux dire Charles Brunson.
Bravo, c'est la bonne réponse.
Ah ouais ?
Ouais, c'est la bonne réponse.
C'est quoi l'historique ?
Non, bah, c'est des immigrés lituaniens d'un côté.
Charles Brunson, Yanis ?
Hein ?
Charles Brunson, Yanis.
ensuite, donc un point pour Steve et Félix. Qui est célèbre pour cette phrase ? Je suis né pauvre. Et je ne l'ai jamais oublié. Charles Brunson, Jalen Brunson, les deux ou aucun des deux.
J'ai vu Jalen Brunson dire que son père avait galéré quand il était jeune avec plein de contrats. Et donc je vais dire Jalen Brunson.
Alors la bonne réponse est Charles Brunson qui a commencé comme ouvrier dans les mines de charbon avant de réussir sa carrière à Hollywood. Donc Steve a fait un petit écart là, 6,5. C'est
toute
les sports.
La famille, c'est mes enfants. Hein.
Toute la famille, c'est tes enfants.
Ouais, oui.
C'est-à-dire
Brunson. de
Félix 4,5, Fred 4. Jalen Brunson, pas très grand, 1m88, pas si petit non plus. Donc, je vous donne des noms de joueurs, vous me dites s'ils sont plus grands ou plus petits. Ok.
Chacun notre tour.
Chacun votre tour. Steve,
oui.
Fred Van Vliet.
Fred Van Vliet, ça n'a pas joué à beaucoup.
Bah non, ça ne joue pas beaucoup.
Ça n'a pas joué à beaucoup. Rigolo, et hein. Je pense que Fred Van Vliet doit faire. Il doit avoir 1 ou 2 centimètres de moins, donc je veux dire plus petit.
Moi, je dis plus.
Il est plus petit, 5 centimètres de moins. Félix, Dennis Schroeder.
Ah, il est plus grand.
Il est plus petit, Dennis Schroeder. Et enfin, Fred, Bradley Beal. C'est nul, hein, cette question.
Ouais. Il est plus grand.
Ouais, il est plus grand. 1m91, Bradley Beal, quand même. Hein. Ensuite, on va faire un petit point.
Il existe encore, ce mec ?
Pour voir quand même.
Clippers, non ?
Mais normalement, oui.
Pour revenir au vif du sujet, quand même, petit point stat sur l'ensemble des playoffs. Je ne sais pas si vous les avez, celles-là. Qui est le meilleur marqueur par match en moyenne ?
Victor ?
Non.
Brunson ?
Attention, sur l'ensemble des playoffs.
Ah, toutes les équipes ?
Ouais.
Des finales.
Non, de l'ensemble des playoffs. Est-ce que vous l'avez ? C'est pas simple. Enfin, j'étais étonné de voir que c'était lui.
Nikola Jokic ?
Non. Non.
Qui a fait des cartons ?
Il faut se remettre en arrière.
Ouais.
Anthony Edwards ?
C'est pas Anthony Edwards. C'est une équipe qu'on pouvait attendre presque en finale. Hein.
Jalen Brown ?
À l'Est.
Jalen Brown ?
Non.
Ah, c'est Donovan Mitchell ?
Non.
James Harden ?
Non.
Jalen Brown,
28 points.
Kate Cunningham.
28. Kate Cunningham.
Ah oui, t'es tout seul à jouer au basket.
Ensuite, le plus grand nombre de 3 points réussis par match.
Par match.
Trouver un joueur.
Là, c'est difficile. Ouais, un très bon joueur. Hein. Très bon joueur dont on a parlé toute la saison dans une équipe. Ça passe le temps. Elle passe le temps cette équipe. Des fois c'est sympa, des fois c'est
Atlanta.
Nul. Non.
LaMelo.
Non.
Ah ouais. Kankanepel.
Non. C'est à l'Est aussi. Hein. Comme quoi, il y a des bons petits joueurs à l'Est. Un transfert qui aurait...
Ah ouais, bravo.
Non, c'est pas ça. Un transfert qui aurait pu vraiment, vraiment faire la diff. D'ailleurs, qui a été salué par ce podcast.
McCollum ?
Non, c'est à l'Est.
Transfert.
Une équipe, franchement...
Nickel Alexander Walker.
À la fin de la saison, une équipe
Desmond
insignifiante.
Bain.
Desmond Bane, bravo.
Ah ouais. Oui.
bravo.
Bravo, ouais. Putain, t'es parti chercher où ça?
Ben en fait, il a dit, c'est on a parlé beaucoup du transfert de ça en fait. Donc,
Et enfin, le meilleur passeur.
Harden.
Non. Le meilleur passeur.
Cunningham.
Non. Le meilleur passeur.
La Melo Ball. La Melo Ball.
Jokic. Ah oui. Ah oui, bravo ouais. Nicolas, bravo. Bravo Félix. Le point sur les scores, 7,5 Steve, 6,5 Félix et 6 Fred. Sur les finales maintenant, une seule réponse possible, hein, parce que c'est évidemment il n'y a pas beaucoup de noms à donner. Je vous donne une stat, enfin je vous demande une stat et vous me donnez une réponse chacun. C'est parti. Qui est le meilleur marqueur des finales en moyenne?
Victor.
Ouais, un demi-point chacun.
Non, c'est Fred qui est passé avant.
Ah, très bien. Allez, c'est Fred qui est passé avant. Qui joue le plus grand nombre de minutes?
Victor. Brunson.
Victor. Ouais. Et qui est le meilleur rebondeur?
Towns.
Towns, ouais, bravo. Donc ça fait un point chacun. Très bien. On a presque fini. Un peu d'histoire aussi, c'est important. On parle des Knicks, on n'en parle pas si souvent. Patrick Ewing, finaliste 95 et 99. En 2000, il quitte les Knicks.
Orlando.
Quelles sont les deux franchises qu'il a faites Seattle. Après
Sonics.
Les Knicks?
Orlando Sonics.
Les deux points pour Steve, hein, bravo. Hein. Ah oui, bah, si, c'est incontestable, il les a sortis avant.
Mais il les a sortis avant parce que vous n'avez pas terminé la question.
Ah bah, il a tenté. Hein. Et ensuite, on cherche un joueur qui a joué dans les deux franchises et c'est pas facile. Pourtant, c'est un grand joueur.
J'espère que c'est Mike Gelabal.
Alors, c'est un grand joueur.
Il a joué à Seattle.
Drafté 9e.
Non, mais je crois que c'est les Spurs et New York.
Les Spurs et New York.
Les Spurs et New York.
Pardon, les Spurs et New York. Drafté 9e en 97, qui a été un joueur majeur de la Ligue pendant une petite décennie.
T-Mac.
Bravo.
Ouais.
Vous vous souvenez qu'il avait joué aux Spurs?
Oui, il est champion avec eux même, en fin de carrière.
Non, si. Il perd en finale.
Ah, il n'est pas là en 2014, il n'est plus là.
Non.
10 points et demi pour Steve. Je compte. Hein. 7 points et demi pour Félix. Ah, et 7 pour Fred, il a fait la diff. Question Mesmer.
Le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain, ah, putain, il recommence.
Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
Tu peux me séparer.
T'as trouvé ça où toi?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier toi? Voici la question Mesmer.
Avec RMC.
On va pas la faire, on va passer directement à la question multiple.
C'était quoi? On répond pas.
C'était quoi? Ah, ok. C'était pour toi. Si Dallas avait gardé Brunson en 2022, les Mavs auraient-ils gagné un titre?
Okay, vas-y,
la réponse était non, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça qu'elle n'est pas très intéressante. Donc, comme je vois qu'il y a 3 points d'écart quand même, on va faire la question multipoint. Patrick Ewing, 15 saisons à New York. Vous allez me donner les joueurs qui ont plus de 15 saisons dans la même franchise. Chacun votre tour. C'est parti, Fred.
Dans la même franchise.
Attends, je ne comprends pas. Dans quelle franchise? À New York?
Non.
David Robinson.
David Robinson, il n'y en a pas 15.
Il n'y en a pas 15, David Robinson?
Bah non.
Non, il y en a un peu moins, je crois.
Félix.
Tim Duncan.
Duncan, il en a 19. Steve.
Tony Parker.
Tony Parker.
Joue encore ou c'est fini?
Il en a 17. Tu joues encore? Non, si tu veux, tu es.
Novitski.
Novitski, 21. Steve.
Non, c'est à moi, je crois.
Félix.
Félix,
Kobe
pardon.
Bryant.
Ah ouais,
20.
Voler mon truc.
Steve.
Robert Parrish.
Non, c'est pas bon. Fred. Il en a 7, il y en a 7. Il y en a un que t'adores.
Magic?
Non. Félix.
Stockton?
Stockton, 19, bravo. Attention, il revient, Félix. Steve, faut que tu trouves une bonne réponse.
Karl Malone,
18.
C'est cadeau.
Putain, c'est cadeau, là.
Et celui que t'adores est toujours là. Il n'a pas encore été.
Que j'adore.
Ouais, tu l'adores. À chaque fois qu'on en parle, c'est genre, t'en parles avec des labos.
Worthy
dans les yeux.
Non.
Comment t'as dit?
James Worthy?
Mais non.
Félix.
Moi, je l'ai.
Steph Curry.
Non,
ah si,
bon.
Il en a 17.
Ah,
il a été drafté en 2009.
Ah ouais, t'es allé sur un site qui s'est arrêté en 2021. Non,
peut-être j'ai fait que les joueurs qui sont plus en activité.
Ah, d'accord. C'est Hakeem the Dream, le joueur de Fred.
C'est ça. Attends, on accorde le point à Félix? Pas besoin de vérifier. 15.
Ah non, mais il est drafté en 2009.
Sûr, 2009, ok. Oui. Vas-y. Hakeem Olajuwon, oui. C'est ça, exactement. Fred, ça devient dur. Je vais vous donner les franchises. Miami.
Udonis Haslem.
Indiana, San Antonio et Boston.
Udonis Haslem.
Reggie Miller. Je vous les accorde. Hein. C'est bon. Hein. Et donc, il nous manque les Spurs.
Manu Ginobili.
Et Boston.
Boston.
62-78.
Bill Russell.
Sam Jones.
John Havlicek.
Bravo. Victoire de Stephen à la semaine prochaine.
RMC. Basket Time.